L'art et la psychanalyse. Nos auditeurs vont entendre une conférence de Monsieur Paul Ricoeur, professeur à la Sorbonne.
La question que je voudrais débattre devant vous est celle-ci. Que pouvons-nous légitimement attendre de l'application de la psychanalyse aux œuvres d'art? Je voudrais mettre en garde nos auditeurs contre deux erreurs complémentaires. Pour certains, l'introduction de la psychanalyse dans le domaine artistique est une sorte de profanation d'un secret, d'un mystère, qui doit rester à l'abri de l'indiscrétion du psychanalyste. Pour d'autres, au contraire, la psychanalyse serait une sorte d'interprétation, d'explication, qui ne laisse plus rien de mystérieux, plus rien de secret. Après elle, on pourrait dire, maintenant, nous savons, l'œuvre d'art, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Entre un refus d'interprétation et une interprétation qui réduit le mystère de l'œuvre d'art, je voudrais essayer une voie intermédiaire. Je voudrais montrer qu'il ne faut pas tout attendre de l'interprétation que Freud et la psychanalyse donne des œuvres d'art et aussi du plaisir que nous y prenons, et néanmoins que la contribution de la psychanalyse est considérable et qu'elle peut enrichir à la fois notre plaisir et notre respect du mystère de l'œuvre d'art. Je voudrais dire d'abord une chose. L'intérêt de Freud, lui-même, le fondateur de la psychanalyse, son intérêt pour l'art n'est pas du tout d'occasion et de hasard. Déjà, à l'époque où le jeune Freud se plongeait dans l'étude de l'hystérie et des névroses, il rêvait des palais de Crète que Sir Evans était en train d'exhumer. Il rêvait aussi de Rome, où, pour bien des raisons, il ne réussit point à aller avant d'avoir atteint la cinquantaine. Il se passionnait pour les légendes, le folklore, la mythologie. Ainsi, dès le début, semble-t-il, son intérêt est curieusement partagé entre la psychiatrie et l'histoire de la culture et de ses origines archaïques. Ces deux intérêts semblent d'abord rester parallèles et sans point de contact. Or, il devait trouver un point de rencontre, un point de convergence, au début de ce siècle. Ce point de rencontre, c'est le rêve. D'un côté, le rêve, enfoncé dans la profondeur incommunicable de nos nuits, est comme la mythologie privée de chaque dormeur. Mais, d'un autre côté, les poésies et les mythes des peuples sont comme le grand rêve éveillé de l'humanité. Il se produit donc entre les mythes des grandes cultures et les rêves enfouis dans la nuit de chaque dormeur une sorte d'échange. Et c'est cette souterraine communication entre rêve et poésie qui est l'objet de notre enquête ce soir. Il n'est donc pas inutile de jeter un coup d'œil indiscret dans ce grand livre de Freud, peut-être le plus grand livre de Freud, celui qui, en tout cas, est le plus accessible au grand public, L'interprétation des rêves. Ce livre qui fut publié au début de notre siècle et qui nous présente précisément ce regard croisé sur la névrose, d'une part, et sur l'art, d'autre part. Alors, dira l'auditeur méfiant, voilà bien la confusion que nous redoutons tant, la confusion de l'œuvre d'art et du symptôme névrotique. Ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que Freud loin de confondre les genres, loin de dissiper les différences essentielles, nous rend plus précieuse l'œuvre d'art. Il nous la rend plus précieuse, justement parce que il nous a fait parcourir le dédale de souffrance, d'échec et de malheur que représente la névrose. Car ceux qui, après un regard plongé dans le monde de la névrose, ce qui ressort avec une évidence plus criante que jamais, c'est que, face à la stérilité, à l'impuissance de la maladie mentale, la venue au jour de ces œuvres millénaires qui nous instruisent encore, alors que le rêve se dissipe au réveil et que la névrose se referme sur l'enfer privé du malade, cette venue au jour apparaît comme une énigme renforcée et redoublée. Alors, qu'est-ce que Freud explique dans l'œuvre d'art? Eh bien, ce qu'il explique, ce n'est pas du tout l'identité de valeur, c'est la ressemblance de structure. Freud ne veut nullement nous convaincre de l'identité de la maladie ou de la folie et de l'œuvre d'art. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est à travers, justement, leur différence. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est leur analogie de structure. Ressemblance de structure et non point confusion de valeurs, voilà le premier thème central de la psychanalyse. Alors que voulons-nous dire par là ? Ressemblance de structure. Eh bien, feuilletons l'interprétation des rêves. Nous trouvons un grand chapitre qui est consacré à ce que Freud appelle le travail du rêve. Ce qu'il veut nous montrer dans ce grand chapitre, c'est que le rêve, tel que le rêveur l'apporte à son analyste, ce rêve est le résultat d'un travail psychique, compliqué et retors. C'est ce travail qui, maintenant, doit nous retenir. Ce travail lui-même, et non point l'insignifiance de son résultat. Or, en quoi consiste ce travail ? Freud démêle, à travers le rêve, toutes sortes de mécanismes, tels que le déplacement de l'intérêt sur des images secondaires, la condensation de plusieurs personnages ou de plusieurs épisodes en un seul, la dramatisation des soucis et des pensées informulées, etc. Certes, ce grand travail du rêve n'engendre que le produit le plus pauvre et le plus dérisoire, mais c'est dans la composition même du rêve que réside l'énigme du rêve, et non point dans son résultat. C'est donc de ce côté, du côté des analogies de composition, qu'il nous faut maintenant porter notre regard. C'est pourquoi je disais en commençant que nous ne devons pas tout demander à la psychanalyse, bien qu'elle nous offre plus et autre chose que ce que nous étions disposés à lui demander. Et bien, ce que nous ne devons point lui demander, c'est une explication totale de la valeur sociale, de la valeur personnelle, et j'allais dire presque de la valeur métaphysique de l'œuvre d'art, de son pouvoir de nous ouvrir des continents de réalité, d'énigmes et de mystères. Mais ce qu'elle nous offre, c'est justement ce que nous n'étions pas disposés à lui demander. Cette manière d'analyser dans le détail, patiemment, une œuvre d'art comme un rêve. N'est-ce pas ce que Freud nous a appris à considérer dans un rêve? C'est ce qui est en apparence le plus insignifiant, c'est l'allusion perdue dans un coin, c'est le détail le plus anodin ou le plus absurde. Eh bien, ce que j'aime dans l'interprétation par Freud de telle ou telle œuvre d'art, c'est ce scrupule du détail, et non point les grandes vues d'ensemble que tant de psychanalystes ont prétendu nous apporter sur les origines de la création artistique et poétique. Je viens tout de suite à un exemple. À l'exemple le plus magnifique, le plus modeste peut-être aussi, le plus sérieux, d'interprétation psychanalytique d'une œuvre d'art. Je pense à cette interprétation que Freud publia, d'ailleurs, chose curieuse, sous une signature anonyme, l'interprétation du Moïse de Michel-Ange, du Moïse de Michel-Ange qui est à Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome. Je pense que mes auditeurs ont présent à l'esprit cette terrible figure du Moïse de Michel-Ange. Le conducteur du peuple juif est représenté par le sculpteur dans la position assise, le regard braqué sur la gauche, en direction sans doute du peuple rebelle en train d'adorer le veau d'or. De la main droite, il retient le flot de sa barbe, tandis que son coude tient pressé contre son flanc les tables de la loi. Alors que fait Freud en face de cette figure terrible? Il ne nous propose aucune psychanalyse sauvage de Michel-Ange. Il ne parle même pas de Michel-Ange. Mais ce qu'il nous propose, c'est l'analyse minutieuse d'une œuvre singulière, mais une analyse conduite comme une analyse de rêve. Le détail qui l'arrête, c'est la position de l'index. C'est aussi la position basculée des tables. Et cette contradiction entre deux mouvements de tout le corps, l'un qui porte le prophète à bondir vers le peuple rebelle et sans doute à laisser tomber les tables, l'autre qui le retient cloué sur place, dans une suprême volonté de maîtrise sur soi. Alors, la forme que nous avons sous les yeux, ce Moïse, assis, immobile, nous apparaît soudain comme une de ces figures de compromis dont le rêve a le secret. Une figure de compromis entre deux cours de pensée et de sentiments. L'un de colère, l'autre de respect pour la grandeur de sa mission. Et toute l'énigme de cette œuvre d'art tient dans l'équilibre entre ces mouvements contraires. Équilibre figé dans la pierre, mais vibrant sous nos yeux. Dès lors, toute une épaisseur de signification se révèle ainsi à nous par l'analyse. C'est de proche en proche alors que nous retrouvons l'intention du statuaire, peut-être même dans cette figure une sorte de reproche à la violence du défunt, du pape Jules II, dont le tombeau devait être orné par la statue, et peut-être même un avertissement que l'artiste s'adresse à lui-même contre sa propre colère, contre sa propre violence. Ainsi, loin d'arrêter l'explication, c'est un commentaire sans fin qui se creuse sous nos pas. Loin que l'énigme soit réduite à rien, elle est multipliée. Je voudrais évoquer maintenant un second exemple, parce que il semble aller en sens contraire. Je songe ici au livre de Freud consacré à Léonard de Vinci, ou plutôt à un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je corrige le titre, ou plutôt l'énoncé du titre. À première vue, Freud a fait dans ce livre ce qu'il s'était interdit de faire avec le Moïse de Michel-Ange. Il semble qu'il nous propose une psychanalyse sauvage de Léonard lui-même. Ne prétend-il pas nous parler des origines de sa puissance créatrice, de l'origine des échecs de cette puissance? Ne prétend-il pas fouiller dans la première enfance de l'artiste, ouvrant ainsi la voie au pire des biographies psychanalytiques que tant de ses successeurs ont commises? Ceux qui ont lu ce livre ont sans doute présent à la mémoire Cette interprétation du sourire de la Joconde, du sourire énigmatique de Mona Lisa. Freud ne nous dit-il pas que derrière ce sourire de Mona Lisa, il faut retrouver le sourire de la mère, de la pauvre mère perdue, qui, selon l'analyse du fameux rêve du vautour, aurait écrasé des baisers excessifs sur la bouche de Léonard enfant. Mais avons-nous bien lu ? N'est-ce pas nous qui demandons trop à la psychanalyse et d'abord trop au Léonard de Freud ? Si nous le relisons de près, nous voyons que Freud ne nous propose aucune explication complète et totale de Léonard, du génie créateur de Léonard. Il se borne à placer quelques jalons isolés en direction de ce génie. Tout au plus, 4 ou 5 traits énigmatiques sont montés en épingle et travaillés comme des débris architecturaux d'un palais disparu. C'est ici la restitution de la mère de Léonard, à l'arrière du sourire énigmatique de la Joconde et aussi de Sainte-Anne. Mais ce sourire de la mère, Freud nous le rend-il ? N'est-ce pas une interprétation volontairement fragmentaire qui, elle aussi, comme tout à l'heure, tente à creuser et non point dissiper l'étrangeté de ce sourire ? Car enfin, l'énigme du sourire, loin d'être percée à jour, est comme renforcée par l'explication qui lui donne de l'épaisseur. Oui, ce sourire de la mère perdue. Il est, lui aussi, un sourire perdu. Perdu pour Léonard, perdu pour nous, perdu pour tout le monde. Ce que la psychanalyse retrouve, c'est sa place vide dans la réalité. Et ce souvenir que la psychanalyse réanime s'épuise à nous renvoyer à la seule présence du seul sourire qui nous soit encore accessible, celui de Mona Lisa. Mais c'est le souvenir lui-même irréel d'une femme irréelle. Ainsi, ce sourire irréel nous renvoie à ce point d'absence où toutes les traces se perdent, le souvenir de la mère perdue. Et à son tour, cette trace n'est que le chemin qu'emprunte le symbole et que seul l'art nous rend présent. Je voudrais, à partir de ce résultat qui nous laisse à une sorte de point de suspension, de point de doute et d'interrogation, tenter de vous conduire encore un peu plus loin avec un autre exemple. On dit bien souvent que la psychanalyse, et c'est vrai en première approximation, que la psychanalyse découvre derrière les rêves, derrière les symptômes, des désirs refoulés, des désirs enfouis, et qu'elle nous conduit ainsi jusqu'à la couche la plus dissimulée et la plus archaïque de notre vie mentale. C'est vrai, mais c'est une demi-vérité. C'est vrai que l'œuvre d'art, comme le rêve, est une sorte de représentation déguisée de ses plus vieux désirs. Mais qu'est-ce que nous comprenons ? Qu'est-ce que nous expliquons lorsque nous montrons du doigt, caché derrière le simulacre, derrière le symptôme, derrière le symbole de l'œuvre d'art, lorsque l'on nous montre ses plus vieux désirs ? Comprenons-nous mieux l'œuvre d'art ? Je prendrai un troisième exemple. Je l'emprunterai cette fois à l'interprétation que Freud propose de la tragédie grecque, de la tragédie de Sophocle, bien connue, Édipe roi. Cette interprétation, en effet, est un excellent exemple de la réelle complexité et je dirais presque de la profonde modestie de l'interprétation freudienne. Chacun connaît, je pense, la trame de cette tragédie. L'oracle a prédit que l'enfant Édipe, un jour, tuerait son père et épouserait sa mère. Comme on sait, Édipe est celui qui cacha l'enfant, fait tout pour éviter de remplir, de réaliser l'oracle. Mais c'est précisément tout ce qu'il fait pour ne pas accomplir l'oracle qui le précipite dans son destin. Il tue son père, il épouse sa mère. Qu'est-ce que l'interprétation psychanalytique nous offre ici? À première vue, l'interprétation de la tragédie d'Édipe paraît être une simple réduction à un élément de rêve, le rêve que nous appelons précisément aujourd'hui le rêve édipien, le rêve qui porte les désirs de l'enfant vers sa mère et que le père barre, et dont le père barre l'accès par l'interdiction et la menace du châtiment. Alors, l'interprétation paraît simple, paraît aisée et se résume en deux traits. Si nous éprouvons tant de plaisir à trembler et à souffrir avec le vieil Édipe, c'est que la tragédie réanime sous nos yeux le vieux désir œdipien qui fut jadis le nôtre. Édipe, lorsqu'il tue son père et épouse sa mère, réalise sous nos yeux notre propre complexe d'Édipe. À cela, ajoutons un second trait, Édipe est puni. Et ainsi, nous satisfaisons à la fois, d'une manière fictive, notre désir d'être nous-mêmes Édipe, et en même temps, nous satisfaisons notre conscience qui a refusé, qui a refoulé le désir édipien. D'une pierre, dirais-je vulgairement, nous faisons deux coups, puisque d'une part, nous sommes Édipe et nous punissons Édipe. Nous retrouvons encore ici cette forme de compromis dont je parlais tout à l'heure à propos du Moïse de Michel-Ange. La tragédie est comme une sorte de compromis entre la réactivation du désir de l'enfant et la punition de ce désir par la part morale, la part cultivée de nous-mêmes et qui a refoulé ce désir. Cette interprétation est dans Freud et elle est très légitime, mais c'est seulement le premier étage de l'interprétation est le moins important. Oui, je dis qu'elle est très légitime, car, comme on l'a dit bien des fois, bien avant Freud, la tragédie nous permet de vivre, de revivre, sur un mode fictif, simulé, nos désirs de mort, nos haines, nos jalousies, et nos amours, et nos peurs. Mais c'est le plus superficiel. Aussi bien Jocaste le dit dans la tragédie, tout homme a rêvé de tuer son père et d'épouser sa mère. Oui, c'est bien l'interprétation la plus superficielle. Car Freud lui-même nous pointe vers une seconde interprétation beaucoup plus subtile. Revenons à la pièce grecque. La pièce grecque ne nous raconte aucunement comment Édipe a rencontré son père et l'a tué, comment il a rencontré sa mère et l'a épousé. Lorsque la tragédie commence, le drame a déjà eu lieu. La véritable tragédie n'est pas la tragédie de l'inceste et du parricide, c'est une tragédie de la vérité. Toute la tragédie est une longue lutte pour la vérité, une résistance à la vérité et une ultime victoire de la vérité. Comme on sait, Édipe accuse Créon, il accuse le voyant, et finalement, il se reconnaît. Il y a donc deux tragédies, l'une dans l'autre. Il y a la tragédie du parricide et de l'inceste, d'une part, et il y a la tragédie de la vérité. Et c'est bien pourquoi le dénouement est un dénouement aux deux niveaux de la tragédie, puisque lorsque Édipe se crève les yeux, il se punit du meurtre, il se punit de l'inceste, mais en même temps, il accède à la vérité, c'est-à-dire qu'il devient lui aussi le voyant aveugle, il devient comme le voyant aveugle, il a perdu les yeux et il a trouvé la vision. Or, c'est cette seconde tragédie dans la tragédie qui est finalement le plus proche de ce que la psychanalyse peut y lire. Freud le note, la découverte de la vérité, la reconnaissance de la vérité, mais c'est la psychanalyse elle-même. Le drame de Sophocle est conduit comme une psychanalyse qui est elle aussi une lutte pour la vérité. Mais alors, s'il y a deux tragédies imbriquées l'une dans l'autre, la première ne nous est accessible que par la seconde, la tragédie de l'enfance ne nous est accessible qu'à travers celle du roi, la tragédie de la sexualité à travers celle de la vérité. La fonction de l'œuvre d'art, dès lors, n'est pas seulement de nous faire revivre le drame de l'enfance, mais de nous le faire revivre à travers la lutte d'un adulte, d'un roi, en lutte pour se reconnaître lui-même. Ici, la psychanalyse rejoint non seulement le mot de Jocaste, très superficiel, tout homme a rêvé un jour de tuer son père et d'épouser sa mère, mais la psychanalyse rejoint le mot beaucoup plus profond, l'avertissement du cœur antique. « Voyez cette Édipe, s'écrit le chef de cœur. Voyez cette Édipe qui devina les énigmes fameuses, cet homme très puissant. Quel est le citoyen qui ne regardait pas sans envie sa prospérité ? Et maintenant, dans quel flot terrible de malheur il est précipité ? » Cet avertissement, continue Freud, et je cite, « nous atteint nous-mêmes, blesse notre orgueil, notre conviction d'être devenu très sage, très puissant depuis notre enfance. » Ainsi, la tragédie mêle à la simple reviviscence des désirs infantiles un drame de la vérité qui s'adresse à l'homme adulte en chacun de nous.